4. Holly regarde son patron, qui se trouve être la personne qu'elle aime le plus au monde, marcher jusqu'à l'arrêt de bus au coin de la rue. Il est si mince à présent, presque l'ombre de l'homme robuste qu'elle a rencontré pour la première fois il y a 6 ans. Et il presse sa main contre son flanc en marchant. Il fait ça souvent en ce moment, et elle ne sait même pas s'il s'en rend compte. Rien qu'un petit ulcère, il a dit. Elle aimerait le croire, mais elle n'est pas sûre de pouvoir. Le bus arrive et Bill monte. Debout à la fenêtre, Holly le regarde partir en se rongeant les ongles et en rêvant d'une cigarette. Elle a des nicorettes, tout un tas. Mais des fois, il n'y a qu'une cigarette qui peut aider. « Assez perdu de temps, se dit-elle. Si tu dois vraiment jouer les sales petites fouineuses, c'est maintenant ou jamais. » Elle entre dans le bureau de Bill. L'écran de son ordinateur est noir, mais il ne l'éteint qu'au moment de rentrer chez lui le soir. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'appuyer sur une touche pour le sortir de sa veille. Mais avant qu'elle fasse le geste, son regard est attiré par le bloc à feuilles jaunes posé à côté du clavier. Il en garde toujours un à portée de main, d'ordinaire couvert de notes et de gribouillis. C'est comme ça qu'il réfléchit. En haut de la page à laquelle il est ouvert, figure un vers des Beatles qu'elle connaît bien. Un vers qui résonne en elle depuis la toute première fois qu'elle l'a entendu à la radio. « All the lonely people », tous les gens seuls. Il l'a souligné. En dessous, il y a des noms qu'elle connaît. Olivia Trelawney, veuve. Martin Stover, célibataire, vieille fille, selon la femme de ménage. Janice Ellerton, veuve. Nancy Alderson, veuve. Et d'autres. Le sien, bien sûr. Elle aussi est une vieille fille. Pete Huntley, qui est divorcé. Et Hodges lui-même, divorcé également. Il y a 2 fois plus de suicides chez les personnes célibataires. 4 fois plus chez les gens divorcés. « Brady Hartsfield aimait le suicide », murmure-t-elle. « C'était son hobby. » Sous les noms, Hodges a noté, et entouré, quelque chose qu'elle ne comprend pas. Liste des visiteurs. Quels visiteurs? Elle appuie sur une touche au hasard et l'ordinateur de Bill se rallume, affichant l'écran de son bureau et tous ses dossiers éparpillés. Elle l'a houspillé maintes et maintes fois à ce sujet. Lui a dit que c'était comme laisser la porte de sa maison ouverte et tous ses objets de valeur étalés sur la table de la salle à manger, avec une pancarte disant « S'il vous plaît, volez-moi » et il dit toujours qu'il va faire mieux et ne le fait jamais. Pas que ça changerait grand-chose pour Holly, car elle connaît son mot de passe. C'est lui qui le lui a donné, au cas où il lui arriverait quelque chose, avait-il dit. Et elle craint aujourd'hui que ce ne soit le cas. Un seul coup d'œil à l'écran suffit à lui faire comprendre que ce qui lui arrive est plus grave qu'un ulcère. Il y a un nouveau document sur le bureau, avec un titre effrayant. Holly double-clic. Les terribles lettres gothiques en entête confirment que le document est bien le testament de Kermit William Hodges. Elle le ferme aussitôt. Elle n'a absolument aucune envie de mettre son nez dans ses legs. De savoir qu'un tel document existe et qu'il a été revu aujourd'hui lui suffit. C'est même trop. Elle reste debout là, agrippant ses épaules et se mordillant les lèvres. La prochaine étape serait pire que fouiner. Ce serait une atteinte à la vie privée. Un vol avec effraction. Tu es allé jusque-là maintenant, alors continue.
Oui, il le faut,
murmure Holly. Et elle clique sur l'icône du timbre qui ouvre la boîte mail, se disant qu'il n'y aura probablement rien. Sauf qu'il y a quelque chose. Le message le plus récent a vraisemblablement été envoyé pendant qu'il discutait de ce que Bill a découvert cette nuit sous le parapluie bleu de Debbie. C'est un mail du médecin qu'il est allé voir. Stamos, il s'appelle. Elle l'ouvre et lit. « 6 juin, la copie de vos derniers examens pour vos dossiers. » Holly utilise le mot de passe qu'il y a dans l'email pour ouvrir la pièce jointe, s'installe dans le fauteuil de Bill et se penche en avant, les mains étroitement serrées sur les genoux. Le temps d'atteindre la 2e des 8 pages qui constituent le document, elle pleure déjà. 5. Hodges est à peine installé au fond du bus numéro 5 que le bruit de verre brisé retentit dans la poche de son manteau, suivi du cri de joie des garçons annonçant le home run qui vient de fracasser la fenêtre du salon de Madame O'Leary. Un homme d'affaires en costard-cravate abaisse son Wall Street Journal et regarde Hodges d'un air réprobateur.
« Pardon, désolé, » dit Hodges. « Faut que je change la sonnerie. »
« Vous devriez en faire une priorité, »
dit l'homme d'affaires, puis il replonge derrière son journal. C'est un message de son ancien coéquipier. Encore, avec une forte impression de déjà-vu, Hodges l'appelle.
« Pete, » dit-il, « c'est quoi tous ces textos? C'est pas comme si tu m'avais pas enregistré dans tes numéros d'urgence. Je me suis dit que Holly avait dû configurer ton téléphone et te mettre une sonnerie débile, » dit Pete. C'est le genre de truc qu'elle trouverait hilarant. Et puis, je me suis dit que le volume serait à fond, espèce de gros sourdingue. C'est la sonnerie des textos qui est réglée à fond, dit Hodges. Quand je reçois un appel, mon téléphone se paye juste un mini-orgasme contre ma cuisse. Alors change-la. Quelques heures plus tôt, il apprenait qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Et maintenant, il est en train de discuter du volume de son téléphone.
« Absolument. Maintenant, dis-moi ce qui t'amène. »«
On a un gars de la police scientifique qui s'est rué sur ce gadget comme une mouche sur une merde. Il a adoré, comme quoi c'était rétro. T'imagines? Ce truc doit avoir seulement 5 ans et il est déjà rétro. »«
Le monde va vite. »«
Il accélère même. Bref, le zapit est mort. Quand notre gars a voulu changer la batterie, l'écran a envoyé une demi-douzaine de flashs bleus et il s'est éteint. »«
À quoi c'est dû ?»
Techniquement, il a pu choper un virus. Il est censé y avoir la Wi-Fi dessus, et c'est surtout sur Internet que ces saloperies se téléchargent. Mais selon lui, c'est plutôt une puce défectueuse ou un circuit cramé. Le fait est que c'est une fausse piste. Ellerton n'a pas pu se servir de ce truc.
Alors pourquoi elle gardait le chargeur branché juste là, dans la salle de bain de sa fille?
Pete est réduit un instant au silence, puis il dit
« Ok. » Alors peut-être qu'il a marché un moment, et puis que la puce a grillé, ou un truc du genre.
Il marchait très bien, pense Hodges. Elle jouait au solitaire à la table de la cuisine, à des tas de solitaires différents, comme Klondike, Pyramide et Pitcher. Ce que tu saurais, mon très cher Pete, si tu avais parlé à Nancy Alderson. Mais ça doit être encore sur ta liste des 100 choses à faire avant de mourir.
Ok, dit Hodges. Merci pour l'info.
Ce sera la dernière info, Kermit. J'ai une coéquipière avec qui j'ai fait du plutôt bon boulot depuis que t'es parti, et j'aimerais qu'elle soit là à ma fête de départ et pas assise à son bureau à faire la tronche en pensant que je t'aurais préféré jusqu'à la fin.
Hodges pourrait continuer sur ce terrain-là, mais l'hôpital n'est plus qu'à 2 arrêts. Et puis, réalise-t-il, il veut se dissocier de Pete et Izzy sur ce coup-là et la jouer à sa façon. Pete est un traînard, et Izzy est une rameuse. Lui a envie de courir, cancer du pancréas ou pas.
« Je comprends, » dit-il. « Merci encore. »«
Affaire classée ?»«
Finito. »
Son regard se perd en haut à gauche. 6. À 19 rues de l'endroit où Hodges est en train de remettre son téléphone dans sa poche, il y a un autre monde. Un monde pas très chouette. La sœur de Jérôme Robinson s'y trouve et elle a des problèmes. Jolie est réservée dans son uniforme scolaire de Chapel Ridge, manteau à laine grise, jupe grise, chaussettes montantes blanches, écharpe rouge autour du cou. Barbara marche dans Martin Luther King Avenue avec un Zapit Commander jaune entre ses mains gantées. Les poissons du Fishing Hall fusent et nagent sur l'écran, bien qu'il soit à peine visible dans la lumière froide et étincelante de la mi-journée. MLK est l'une des 2 artères principales dans cette partie de la ville connue sous le nom de Lowtown. Et bien que la population soit majoritairement noire, et que Barbara soit noire elle aussi, disons café au lait, elle n'est jamais venue ici avant. Et cette simple idée l'a fait se sentir stupide et inutile. Ces gens sont de son peuple. Pour ce qu'elle en sait, leurs ancêtres communs vivaient peut-être sur la même plantation dans le temps, allant les chalands, soulevant les balles, Et pourtant, elle n'a jamais mis une seule fois les pieds ici. Ses parents l'ont mise en garde, et son frère aussi. À Lowtown, ils boivent la bière, et ensuite ils mangent la bouteille, lui a dit Jérôme une fois. C'est pas un endroit pour une fille comme toi.
Une fille comme moi, se dit-elle. Une gentille petite bourgeoise comme moi, qui va dans un joli lycée privé, qui a de gentilles copines blanches, plein de jolies fringues bien chics et de l'argent de poche. Ah, j'ai même une carte bancaire. Je peux retirer $60 à n'importe quel distributeur quand je veux. La classe, putain!
Elle marche comme dans un rêve, et c'est un peu comme un rêve. Tout est si étrange. Alors qu'elle n'est qu'à 3 kilomètres de la maison, une maison cosy, de style Cape Cod, avec un double garage attenant, emprunt intégralement remboursé. Elle passe devant des boutiques d'encaissement de chèques et de prêteurs sur gage, remplies de guitares, de radios et de rasoirs coupe-choux luisants à manches de nacre. Elle passe devant des bars qui sentent la bière, même avec les portes fermées contre le froid de janvier. Elle passe devant des gargotes qui sentent la graisse. Certaines vendent de la pizza à la portion, certaines vendent du chinois. Il y a une pancarte dans une vitrine qui dit « Beignets de maïs et gombo comme chez maman ».« Pas ma maman », pense Barbara. « Je sais même pas ce que c'est des gombos. Des légumes ? Du poisson ?» Des garçons en shorts longs et pantalons baggy traînent au coin des rues. À tous les coins de rue, on dirait. Parfois rassemblés autour de feux qui brûlent dans des fûts rouillés, parfois jouant au footbag ou se trémoussant en rythme dans leurs énormes baskets, leurs blousons déboutonnés en dépit du froid. Ils crient « Yo » à leurs potes et elles les voitures qui passent. Et quand l'une d'elles s'arrête, ils échangent des sachets transparents par la vitre ouverte. Barbara descend MLK sur 9, 10, peut-être 12 blocs. Elle a arrêté de compter. Et chaque coin de rue ressemble à un drive pour drogue, plutôt que pour hamburger ou tacos. Elle croise des femmes frissonnantes en short, court manteau de fausse fourrure et bottes brillantes. Elles sont affublées de perruques incroyables de toutes les couleurs. Barbara dépasse des bâtiments vides, aux fenêtres condamnées. Elle dépasse une voiture désossée couverte de graffitis. Elle croise une femme avec un pansement sale sur un œil. La femme traîne un bambin hurlant par le bras. Elle passe devant un homme assis sur une couverture. Il boit du vin au goulot et remue sa langue grise dans sa direction. C'est pauvre, c'est désespérant. Et ça a toujours été là, à deux pas. Et elle n'y a jamais rien fait. Fait ? N'y a même jamais pensé. Elle, elle fait ses devoirs. Elle téléphone à ses super copines le soir et leur envoie des textos. Elle actualise son statut Facebook et se préoccupe du teint de sa peau. C'est l'ado parasite de base, qui dîne dans de beaux restaurants avec papa-maman, pendant que ses frères et ses sœurs, juste là, à même pas 3 kilomètres de sa jolie maison de banlieue, boivent du vin et prennent de la drogue pour oublier leur vie misérable. Elle a honte de ses cheveux qui retombent souplement sur ses épaules. Elle a honte de ses chaussettes blanches immaculées. Elle a honte de la couleur de sa peau parce que c'est la même que la leur.
« Hé, Blackish !»
Le cri vient de l'autre côté de la rue.
« Qu'est-ce que tu fous là ? T'as rien à foutre ici ?»
Blackish. C'est le nom d'une série télé, Blackish. Il la regarde à la maison et il rigole. Mais c'est aussi ce qu'elle est, pas vraiment noire. Une noire vivant une vie de blanc dans un quartier blanc. Si elle peut vivre comme ça, c'est parce que ses parents gagnent beaucoup d'argent et sont propriétaires d'une maison dans un quartier où les gens sont si parfaitement dénués de préjugés que leurs poils se hérissent s'ils entendent un de leurs gosses en traiter un autre de débile mental. Elle peut vivre cette merveilleuse vie de blanc parce qu'elle est une menace pour personne. C'est pas une révoltée. Elle fait sa vie, papotant de garçons et de musique avec ses copines, de garçons et de fringues, de garçons et de programmes télé, et de quelles filles elles ont vu avec quel garçon au centre commercial de Birch Hill. Elle est Blackish, autrement dit inutile, et elle ne mérite pas de vivre. Peut-être que tu devrais juste en finir, que ton geste soit ton manifeste. Cette idée est une voix, et elle s'impose avec une sorte de logique, comme une révélation. Emily Dickinson avait dit que son poème était sa lettre au monde qui ne lui a jamais écrit.
Il l'avait lu en cours, mais Barbara n'a jamais écrit aucune lettre. Plein de rédactions débiles, de comptes rendus de livres et d'emails, mais rien qui compte vraiment. Peut-être qu'il serait temps que tu le fasses. Pas sa voix à elle, mais la voix d'un ami. Elle s'arrête devant une boutique de voyance et de tarot. Dans la vitrine sale, elle croit apercevoir le reflet de quelqu'un, debout à côté d'elle. Un homme blanc, au visage de petit garçon souriant, avec une masse de cheveux blonds lui tombant sur le front. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, mais il n'y a personne. C'était juste son imagination. Elle reporte son attention sur l'écran de son jeu vidéo. À l'ombre du store de la boutique de cartomancie, les poissons ont retrouvé leurs couleurs vives et leurs contours nets. Ils vont et ils viennent, oblitérés de temps à autre par un flash de lumière bleue étincelante. Barbara tourne la tête et voit un pick-up noir rutilant arriver à vive allure sur le boulevard en zigzagant d'une voie à l'autre. C'est le genre de pick-up avec des pneus surdimensionnés que les garçons au lycée appellent « Bigfoot » ou « Gros Gangsta ». Si tu as l'intention de le faire, tu ferais mieux de te dépêcher. C'est comme s'il y avait réellement quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un qui la comprend, et la voix a raison. Barbara n'a jamais envisagé le suicide auparavant, mais à cet instant, c'est une idée qui lui semble parfaitement rationnelle. « Tu n'as même pas besoin de laisser de mots », lui dit son ami. Elle aperçoit de nouveau son reflet dans la vitrine, spectral. « Que tu l'aies fait ici sera ta lettre au monde. » « Vrai. À présent, tu en sais trop sur toi-même pour continuer à vivre », lui fait remarquer son ami, alors que son regard retourne au poisson nageant sur l'écran. « Tu en sais trop, et c'est pas beau !» Puis la voix se dépêche d'ajouter. « Ce qui ne veut pas dire que tu sois horrible. » « Non, pas horrible. Juste inutile. Blackish. » Le pick-up approche. Le gros gangsta. Alors que la sœur de Jérôme Robinson s'avance vers le bord du trottoir, prête à la rencontre, son visage s'éclaire d'un sourire ardent.